Campus Tour. It's in the game.
C'est parti pour press start.
C'est parti. Encore une fois, je me suis fait avoir.
À chaque fois.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Press Start sur Radio Campus Tour. À chaque fois, je me fais avoir. Mais on est bien là, on est mercredi 26 mai pour cette nouvelle émission. Une émission qui, cette fois, n'est pas en direct, il faut le dire. Soyons honnêtes avec nos chers téléspectateurs, auditeurs, lecteurs.
On est le 25 mai 1999, en léger différé.
On est en léger différé, effectivement. Vous l'avez entendu, Philippe, pour vous servir au micro de Press Start. Bonjour Philippe.
Salut à toutes et à tous et salut Julien.
Et nous sommes donc tous les deux pour représenter Press Start et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un invité de marque.
Ah, très grand.
Quelqu'un qu'on s'arrache un peu partout en France, dans toutes les rédactions, les radios.
En tout cas dans toutes les émissions quasiment.
Dans toutes les émissions, il est un petit peu partout, c'est
il
Seb.
Est partout.
Ouais, je suis en gala, comme on dirait.
Voilà, Seb, que vous pouvez retrouver à 18h15 dans le ghetto, que vous pouvez retrouver
tout à l'heure aussi en léger différé.
En léger différé, ou même dans Tsigalco United, d'ailleurs,
dans quelques jours, même c'est le premier mercredi du mois.
On est mercredi, donc c'est mercredi prochain.
Et également dans l'émission On se porte pas plus mal.
Effectivement,
tu fais souvent une chronique.
Je cumule les mandats. En fait.
Tu cumules les mandats, c'est ça.
En fait, je le dis pas parce que c'est rare que tu sois là, mais en fait, t'enregistres des trucs, c'est vrai, toutes les semaines, toutes les deux semaines quasiment.
Oui, l'émission de sport.
On se porte pas plus mal, c'est ça.
Bon, alors, maintenant que l'intro est passée, je vous propose, messieurs, de rentrer dans le vif du sujet, et puis c'est parti, chargeons l'update.
Voilà.
Veuillez patienter pendant l'update. Veuillez patienter. Pendant l'update. Veuillez patienter pendant l'update.
L'update, c'est donc les actualités autour du monde du jeu vidéo. Et cette semaine, nous avons donc, comme d'habitude, des actus. Il se passe toujours des trucs dans le monde du jeu vidéo. Et quelles sont tes actus cette semaine, Philippe ?
Alors, j'en ai deux, parce que c'est en très courte. Et il faut faire quand même deux minutes, c'est marqué dans le contrat. Hein, donc...
on signe un contrat avant chaque émission, évidemment.
On signe un contrat avant chaque émission, sinon on n'est pas payé. Et on est payé quand même en bounty et en Mars. Donc la société Take-Two, qui entre autres produit GTA, NBA 2K et Civilization, a signé une année record l'année dernière grâce au dématérialisé. Nouvelle tendance depuis des années, mais ça commence peut-être à prendre plus le pas sur le physique de plus en plus.
Hein. Ouais, puis je pense que le confinement, la fermeture des magasins, la peur de sortir a quand même aidé à la transition.
Ça a pas mal aidé. Ils ont fait 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est...
remarquable.
Assez cool, hein, quand même. Un bénéfice net de 486 millions d'euros. Et le dématérialisé, ça génère 87% du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même...
Ah ouais, c'est énorme.
C'est devenu vraiment énorme.
Bon, tu m'aurais dit c'est 50-50, ça m'aurait déjà surpris. Mais alors à ce point-là, 80-20, c'est ouf.
Ouais. Alors imagine d'autres plateformes qui font que de la démat, ça doit être assez... Ils doivent dire merci au coronavirus.
Ouais, c'est possible parce que en fait, ils y gagnent au dématérialisé. Ça leur coûte moins cher en fait de vendre un jeu en dématérialisé. Parce qu'ils ont rien.
Beaucoup d'éditeurs maintenant commencent à se dire on va pas faire un truc physique ou on va sortir une quantité limitée. Autant le faire en dématérialisé.
Ouais, carrément. Je sais pas à quel point ça leur coûte de l'argent de faire un physique. Après, ça doit pas coûter grand chose de faire une boîte, etc. Mais ça doit quand même être peut-être quelques euros si ça se trouve en fait. Donc,
multiplié par
des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, c'est sûr que à la fin on y gagne.
On y gagne. Et la deuxième petite annonce, c'est par rapport à l'E3, qui c'est la plus grande convention de jeux vidéo qui a lieu aux États-Unis. Qui aura lieu le mois prochain. Évidemment, beaucoup vont être devant les streams, les différents streams qui vont avoir lieu, et passer la nuit, parce que c'est souvent très très long.
Ouais.
Et ben, Microsoft et Bethesda feront une conférence commune à l'E3. Est-ce que ça serait peut-être pour annoncer la possibilité d'une exclue Xbox de The Elder Scrolls 6, qui n'est pas du tout un jeu qui est attendu depuis des années maintenant.
Ouais, c'est ça.
Parce que Skyrim, il a été énorme, et puis après, ça a été une attente, une grande attente. Donc voilà.
Et merci Philippe pour cette actu, et moi je vais enchaîner avec mon actu. Alors moi je vais parler un petit peu de d'e-sport, et je vais parler du jeu Counter-Strike, Counter-Strike Global Offensive, l'opus qui est en vigueur, en compétition en ce moment, et justement dans ce jeu vidéo, dans Counter-Strike, il y a un événement global qui s'appelle le Major. C'est un événement organisé par l'éditeur du jeu qui est Valve, et qui est donc on va dire les championnats du monde, l'événement le plus significatif de l'année, et si les joueurs ont bien envie de gagner un événement, c'est bien le Major. Et ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'il n'y a plus de Major à cause du coronavirus. Manque de bol, ils ont voulu peut-être le faire l'été dernier, sauf que devine où était prévu ce Major, dans un pays où il n'y a pas du tout de coronavirus, en Amérique du Sud.
Au Brésil,
ouais. À Rio de Janeiro, alors forcément...
Alors officiellement, selon le président, non.
Non,
il n'y a pas de coronavirus.
Il n'y a pas de coronavirus. Donc vous l'avez compris, ça a été repoussé plusieurs fois, puis ça a fini par être annulé. Finalement, ça aura lieu dans quelques mois, et cette fois-ci plutôt en Europe, pour avoir effectivement moins de problèmes. Et justement, au moment du Covid, Valve en a profité pour modifier un peu son système, parce qu'avant, il y avait un système de qualification pour aller à ce qu'on appelait les mineurs, et les meilleures équipes du mineur se retrouvaient au Major et jouaient donc cette compétition. Aujourd'hui, c'est complètement différent, parce qu'en plus, les équipes qui étaient présentes au Major précédent, si elles avaient réussi à gagner un ou deux matchs dans la compétition, étaient automatiquement inscrites pour le Major suivant, ce qui faisait qu'en fait, ça pouvait être assez simple de s'inscrire au suivant, et en 6 mois, mine de rien, en 6 mois ou 1 an, une équipe peut complètement changer, et puis tous les bons joueurs peuvent partir, on peut se retrouver avec des ploucs au Major qui n'ont rien à faire là, et des gens qui ont des belles équipes derrière mais qui ne peuvent pas s'inscrire.
Ouais.
Donc le système a été complètement remodelé, et maintenant il y a un système de points, ça s'appelle les RMR. Alors c'est un peu complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros il y a plusieurs compétitions pour s'inscrire, pour gagner des points justement pour ce Major, et selon son nombre de points, il y a un classement, et les équipes qui ont le plus de points vont directement au Major, comme ça tout le monde a ses chances. La première de ces compétitions pour accéder au Major de cette année, c'est le Flashpoint 3 qui a lieu en ce moment. Ça a commencé le 10 mai, ça se termine le 30, et dans cette compétition, il y a deux équipes françaises, les Vitality, dont on a parlé à la avant-dernière émission de Prestart, et l'équipe Double Poney. Alors Double Poney, c'est une équipe qui sort un peu de nulle part, c'est ce qu'on appelle un mix, c'est des joueurs qui étaient dans différentes équipes avant et qui finalement ont été un peu exclus de leurs équipes et qui se sont rassemblés pour créer une nouvelle équipe. On peut penser donc à Joko qui faisait partie de l'équipe The Dice, Afro et Body qui faisait partie de l'équipe LDLCOL, à Lucky qui faisait partie de l'équipe Heretics et à NBK qui faisait partie de l'équipe OG. Donc plein de joueurs qui ont été exclus de leur équipe parce que les résultats suivaient pas, on n'était pas satisfait d'eux. Ils se sont mis tous les 5 ensemble et là c'est des machines de guerre. Au classement mondial, ils sont 33e, ce qui est quand même remarquable pour un mix. Et l'histoire est belle car le premier match de cette compétition a opposé Vitality contre les Double Poney, et les Outsiders ont gagné 2-0 sèchement contre Vitality. Les deux équipes ont pu continuer leur chemin dans la compétition, et hier soir elles ont toutes les deux joué leur match de lower bracket et ont toutes les deux perdu, ce qui fait qu'elles se retrouvent à devoir jouer à la 7ème place, un match pour décider si elles seront 7ème ou 8ème. Et forcément, elles se retrouvent l'une face à l'autre. C'est donc la revanche dans cette compétition. Qui est-ce qui gagnera ce match et qui est-ce qui terminera 7e ou 8e? Le résultat, c'est vendredi à 18h sur Twitch pour suivre ce match entre Vitality et Double Poney. Ce qui fait quand même que les Double Poney gagneront entre 900 et 1000 points RMR. Ce qui fait qu'ils sont très bien classés pour le prochain Major. Et ils ont fait quand même une belle performance en milieu de tableau sur 16 équipes de rang professionnel de tiers 1. Elles se retrouvent 7 ou 8e, ce qui est une performance vraiment notable, faut le dire. Donc voilà, pour moi, c'était mon actu autour des jeux vidéo. Je pense qu'on va maintenant faire une pause musicale dans cette émission Prestart. Et c'est une pause musicale qui est proposée par notre ami Sébastien. Qu'est-ce qu'on va écouter, Seb ?
On va écouter un titre d'IAM qui s'appelle Un bon son brut pour les truands. Alors la référence principale de ce clip, c'est évidemment le film Le Bon, la Brute et le Truand, qui est le film préféré, enfin un des films préférés en tout cas des Marseillais du groupe IAM. Et dans ce titre, il y a Freeman qui lâche comme punchline qu'il balance à ses ennemis des coups de Predator Kick. Et le Predator Kick, c'est un coup qu'on retrouve dans un jeu vidéo dont on parlera un petit tout à l'heure, qui s'appelle Adidas Power Soccer.
Et on en parle juste après la pause musicale.
Voilà, donc culture jeu vidéo, culture rap et western spaghetti au menu du bon son brut pour les truands.
Et bien c'est parti.
Montagne à cheval, sortie de ma retraite en moigne, ma bouche, je déballe mon baluchon à froid dans la plus pure tradition. La maîtrise est totale, tel le ninja en action. L'inné et l'acquis se confondent. Les mecs m'observent, je crée dans leur tête une confusion profonde. Son de mon esprit, tu perdras le tien. N'éveille pas le dragon, la bête est plus affamée qu'une meute de chien. Nourrie aux grosses caisses, aux clap pour sa frappe. Pas de mélodie pour avouer le massacre. Ombre furtive tranche la nuit comme des shurikens. Mon bokken brille, le style de la mouette. Sur sa proie, mettre au canot du tiro lipo. Il veut de Tao, Drunken Style Pow, un de plus dans le Pao. Calligraphie, ce texte est dédié au Rataclan. Un bon son brut pour les truands.
Ne lâche pas le mic, il est gluant.
Ayam casse la baraque avec des lyrics tonitruants.
Attaque avec grade chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Ne lâche pas le mic, il est gluant.
Ayam casse la baraque avec des lyrics tonitruants.
Attaque avec grade chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Celui qui nique ma zik, votre shit, les sales flics. Chez nous ça prenne des coups de Predator Kick. Fixe ou je te mystifie comme un Twix. Aussi sauvage que les Nyx. L'homme animal revient avec sa clique. Toujours les mêmes, les cigariers d'Apocalypse. Regarde à l'horizon, c'est notre bannière qui se hisse. I am, je le suis et je le reste, un casse-tête. Mais sur moi garçon, ceux qui renient mon sang finiront par se prendre à coups de tête sur les murs. La nature des éléments me pousse aux trousses des ordures. L'impur devient pur en maîtrisant l'écriture. Sur tes mixtapes un blague gravé côté obscur dedans. Un bon son brut pour les truands. À présent mature, ma vie se passe sur des mélodies, des ratures. Sur mes pages m'ont forgé mon esprit conscient. Que ma vocation va servir à l'expansion de mon école fils. Celle du micro d'argent, mon subconscient me guide. L'infini pouvoir limpide. Regarde ce que peut faire un bon quand tu joues les truands. Écoute le dernier Freeman du clan des 108 dragons.
Ne lâche pas le mic, il est gluant.
Ayam casse la baraque avec des lyrics tonitruants. Truants.
Attaque avec grade chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Ne lâche pas le mic, il est gluant.
Ayam casse la baraque avec des lyrics tonitruants. Truants.
Attaque avec grade chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Hola amigo, je réplique avec un pack de saligo. Et plein de mecs pour niquer le bénéfice au gringo. Un bon son brut, lâche ta zik, elle est renza. Cerveza dans la pogne, reconnaissez-moi Sentenza. J'espère que t'es rapide, kid, ou ton beat est un beat of flop. Si tu viens me tuer, ne raconte pas ta vie mec. Car je me méfie de tout et ne sous-estime rien. Même le pire dépouilleux a un ange gardien. Attablé ma bouche pleine coup d'un plat de fazoul. En poche de trois boules, exécute les contrats sur des petzoul. Les fauriens, apprécie ce son, c'est pas pour rien. C'est comme pas le commerce. Rien que pour les chiens. 100% faillot fait abstraction. Les ragots blondins ne meurent pas. Lâche ta planque ou tu caches le magot. Cowboy en ballerine ne pète pas au royaume des puants. Ce beat est désigné que pour les crapules aux francs suants.
Ne lâche pas le mic, il est gluant.
Ayam casse la baraque avec des lyrics tonitruants.
Attaque avec le grade chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Ne lâche pas le mic, il est gluant.
Ayam casse la baraque avec des lyrics tonitruants.
Attaque avec grade chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
De retour dans cette émission Prestart, toujours sur Radio Campus Tours. De retour, eh bien, pour parler toujours de jeux vidéo, je suis toujours avec Philippe et Seb, et tout de suite on va arriver à notre One Up, et bah, on se met le jingle tout de suite.
Voilà. Tu veux qu'on se tire l'oreille ?
Des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Meuporgs.
Hey, t'es pas sorti de ton igloo depuis perpète !
Les Meuporgs étant le nom barbare...
La ferme, crétin !
...qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels.
Mm-hmm.
Ça s'appelle comme ça, je suis désolé.
Mais ça s'écrit comment ?
Ça s'écrit MMMPORPG. Oh.
Le One Up qui est donc notre discussion slash débat, et aujourd'hui avec Seb on va parler de jeux vidéo, on va parler de sport aussi, et puis voilà l'évolution du jeu vidéo et du sport.
Ah bah le sport et les jeux vidéo c'est une longue histoire, et c'est d'ailleurs le sport un des premiers thèmes explorés par les jeux vidéo. On va remonter aux très très vieilles consoles qui jouaient sur les petits disques, sur Atari, où il y avait un bon nombre de jeux de sport. Alors les jeux de sport, c'était pour certains plus des loisirs que du sport, parce qu'il y avait les jeux de frisbee, il y avait les jeux de course, des jeux comme ça, des jeux d'extérieur en tout cas.
Il y a genre California Games, des choses comme ça, où tu avais 7 ou 8 sports, tu avais 8 sports différents et tout était pété. Quoi.
C'était prévu pour que ça soit des jeux familiaux, où, dans les pubs on te montrait que c'était fait pour jouer gentiment en famille, sauf qu'en réalité c'était pratiquement injouable et que c'était pas du tout accessible à de jeunes enfants. Après, en tout cas pour parler de mon expérience perso sur des jeux de sport, il y a eu les jeux PC aussi. J'ai eu des jeux à l'époque qu'on avait sur disquette, alors qu'ils tenaient en plus des fois sur plusieurs disquettes, qui jouaient sur Windows 3.1. Je me souviens d'avoir eu le jeu officiel des Jeux Olympiques d'hiver de 92 ou un peu plus tard.
Albertville ou Lillehammer.
Ouais, c'était un jeu qui s'appelait Winter, tout simplement, où donc tu avais toute une combinaison de sport d'hiver, tu jouais ça au clavier, donc tu avais le bobsleigh, la luge, le skeleton, le saut à ski, mais là pareil, il faut aller quand même se projeter. graphiquement, c'était pas forcément très vilain, mais par contre, en termes de simulation, on était loin des vraies sensations du bobsleigh et de la luge. Et puis après, il y a eu le passage à la, aux consoles de jeux.
Aux consoles de jeux, c'est là où il y avait eu les California Games, Summer Games, qui étaient des jeux complètement pétés. Où il fallait balancer, par exemple, il y en avait un qui faisait le geste du frisbee et il fallait contrôler avec l'autre manette la personne qui allait le rattraper. La personne était lente, quoi. Le personnage était tellement lent que de toute façon.
Oui, tu ne pouvais jamais rattraper le frisbee.
Sinon, tu sautais par-dessus le frisbee parce que, et en plus, il avait une espèce de détente. C'était mieux que Michael Jordan.
Oui, fallait tout anticiper.
Ce qui était impossible, quoi, très clairement.
Sur console, mes premiers souvenirs, alors dans les jeux de sport, je fais deux grosses catégories, il y a quand même tous les jeux de sport, sport collectif, puis après il y a les jeux de sport auto. Sur la Master System, la NES, et puis sur la Mega Drive aussi, il y a eu une série de jeux qui passaient d'une console à l'autre, ou qui étaient du moins les équivalents. En sport auto, je me souviens de Ayrton Senna Super Monaco Grand Prix.
Sur
la Mega Drive.
Mega Drive, ouais.
Qui était un jeu de Formule 1 qui avait un mode carrière qui était assez hallucinant, parce qu'il fallait battre Ayrton Senna, mais Ayrton Senna avait des...
C'est simple, je me souviens des temps, la meilleure du monde, quoi.
Ouais. Tu bouclais un tour de circuit en 30 secondes. C'est réellement le pilote faisait le tour du circuit en 30 secondes. Ce qui veut dire qu'il allait à peu près à la vitesse d'un avion de chasse. Donc, je sais bien que la McLaren Honda était quand même une bonne voiture, mais bon, c'était pas non plus un Rafale.
Voilà. Elle était rapide, mais quand même. Dans les limites du raisonnable.
Voilà. Et des trucs aussi un peu qui étaient un peu curieux, comme si tu compares au vrai sport auto, c'est que dans Super Monaco Grand Prix, pour prendre bien les trajectoires, en fait, il fallait tout prendre à la corde. Sauf qu'en réalité, genre, en Formule 1, tu ne prends pas du tout les virages comme ça. Enfin, du coup, c'était.
Tu restes pas collé à la corde, tu allonges ton.
Voilà,
ton
tu allonges
trajectoire.
Ta sortie de virage et tout. Alors, dans Super Monaco Grand Prix, non, parce que ouais, si tu allongeais trop, tu prenais le mur de pneus et la voiture.
Casser la voiture, ce qui était. Pour l'époque, graphiquement, c'était une grande nouveauté, parce qu'on voyait un morceau de la voiture qui sortait, et c'était quand même une sacrée révolution, parce qu'avant, c'était simple, c'était juste marqué Game Over, quoi. Donc bon, ok, j'ai pas compris pourquoi, alors que là, il y avait vraiment l'animation...
De destruction.
Et il y avait un truc, il y avait un espèce de easter egg qui était assez drôle, c'est que quand tu arrivais, à la ligne d'arrivée, il y avait le mec qui agitait le drapeau, tu pouvais lui rentrer dedans et il volait le mec.
Oui, c'est vrai, c'était un bug, le type volait en l'air, ouais.
C'était un peu l'easter egg du jeu, quoi.
Après, en jeu de foot, sur la Mega Drive, il y avait Italia 90. Alors là, c'était un jeu, pareil, que c'était vu de dessus. Donc, en fait, les joueurs, on voyait des espèces de petits boudins, ça ressemblait. En fait, il fallait se représenter que c'était la tête du joueur plus les épaules. Et donc, on les voyait taper. En fait, ça faisait comme un baby-foot vu de dessus, quoi. Et on voyait les joueurs taper, faire avancer le ballon. On les voyait juste se détendre quand ils faisaient des tacles. Ou d'un seul coup, on voyait deux jambes apparaître. Donc voilà, pareil, ça demandait un peu d'imagination. C'était très dur, hein, comme jeu, par contre, à finir, c'était un truc...
Pareil, dans les jeux de foot, il y en avait un, c'était European Club Soccer, qui a également connu une version japonaise où c'était J-League Soccer, et c'était exactement les mêmes graphismes, sauf qu'ils avaient légèrement asiatisé, si ça se dit, les cutscenes et tout, enfin les cutscenes c'était juste une image où ils mettaient un petit peu un trait un peu plus prononcé pour faire les yeux brider, ce qui était quand même assez moyen quoi. Et c'était un des jeux les plus difficiles du monde, entre le gardien qui arrêtait tout ou qui des fois, je sais pas, ton propre gardien, il avait envie d'aller voir ce qui se passait du côté du corner alors qu'il y a des attaquants qui sont en train de tirer. Là, il était extrêmement dur, mais quand tu arrivais à la fin, bah, c'était sur une Coupe d'Europe, hein, donc tu pouvais avoir des équipes incroyables comme Niort, tu pouvais avoir Sochaux, je crois aussi, c'était des petites équipes françaises, mais qui étaient à l'époque en première division, hein, dans les années 90, début 90, et à la fin, quand on gagnait la Coupe d'Europe, on avait un match de Coupe, ce qui était à l'époque la Copa... intercontinentale, la Coupe intercontinentale, qui est l'ancêtre de la Coupe du Monde des clubs, et on se retrouvait contre une équipe sud-américaine, donc c'était souvent River Plate, parce qu'il ne devait pas en avoir non plus 150 des équipes préparées, mais voilà, donc c'était, ouais, c'était extrêmement dur. Quand on arrivait au bout, limite on avait tout fait, hein, là c'était c'est bon.
Mais après il y a eu le passage à la 3D, alors sur PlayStation, donc on a devant nous plusieurs boîtes de jeux avec des jeux. Le premier jeu de foot 3D que j'ai eu, c'était Adidas Power Soccer International 97, un jeu fait par Adidas. Mais bon, Nike n'était pas en reste, que on parlera après de Ronaldo et football. Ouais. Donc Nike et Adidas se faisaient un peu la compète aussi sur les jeux de PlayStation, histoire de continuer à se faire la guéguerre. Et Adidas Power Soccer 97, il est connu parce qu'en fait il avait un mode arcade qui était très très arcade, où il y avait tous les coups étaient permis, il y avait des combinaisons de touches qui permettaient de faire des high kicks dans l'adversaire, qui permettaient de faire des gestes techniques. Il y avait aussi un code où on pouvait mettre les commentaires féminins, ce qui était en fait d'une misogynie incroyable, parce que les commentaires féminins, les femmes passaient leur temps en fait à commenter le physique des joueurs, donc aujourd'hui on trouverait ça complètement, surhallucinant, ouais. Quoi. Et il y avait des trucs aussi complètement fous dans le jeu. Par exemple, quand on pouvait faire le fameux Predator Kick, donc ça c'était le truc pour faire la grosse pub à la chaussure pour les crampons Adidas Predator, parce que c'était les crampons de David Beckham et de Zidane. Et quand tu faisais le Predator Kick, en fait le tir était tellement puissant que le gardien en fait reculait avec le ballon jusque dans le but. Donc voilà, des trucs qu'en vrai tu ne vois pas sur un match de foot. Puis tout à l'heure en antenne on a rigolé parce que c'est vrai que même à la jaquette du jeu, quand on regarde derrière il y a des photos, et déjà à l'époque ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, parce qu'on voit des séquences, on voit un match entre la Juventus et l'Atletico, et en fait on voit un attaquant de l'Atletico Madrid dans la surface en train d'armer son tir, et le gardien est droit, planté comme un plot, avec un défenseur à côté qui a l'air effaré de voir l'attaquant de l'Atletico faire un tir comme hostile. Donc il n'y a pas de réaction, c'est assez rigolo.
Il y avait aussi dans le genre jeu de foot, mais c'était juste un prétexte, il y avait Red Card Soccer, où le but du jeu c'était juste de défoncer les autres, quoi. C'était marquer des buts, évidemment, on est dans du football, mais on pouvait tacler l'arbitre, les tacles les plus dégueulasses étaient même autorisés, et on prenait jamais de carton, quoi. C'était là où c'était tout le côté comique finalement de ce jeu.
Après, en jeu de foot, j'ai eu FIFA 2000, mais je pas m'attarder dessus, je vais plutôt m'attarder sur Ronaldo V Football, qui utilise en fait le même moteur graphique que FIFA 2000. C'est graphiquement, c'est les mêmes, sauf que Ronaldo V Football, il y a une licence, et pareil, c'est un truc qu'on voit plus maintenant, mais du coup, un joueur de foot avait son propre jeu. Alors, dans le même genre, il y en a eu d'autres, hein. Il y a Michael Owen a eu un jeu de foot, donc qui était une catastrophe. Giroud a eu un jeu de
Giroud
foot.
Manager. Ouais. Et dans les années 80, il y avait eu un jeu de gestion de foot qui était une catastrophe. C'était Paul Gascoigne qui servait de visage au jeu.
Bon, à l'image du joueur, du coup.
À l'image du joueur, ouais.
Un peu olé olé.
Moi, cette idée d'image du joueur, ça existait encore aujourd'hui avec FIFA. Hein.
Ouais, mais maintenant, ça sert uniquement de...
Mais ça sert juste de promo.
De promo, voilà.
Là, le jeu, en fait,
Ronaldo V Football... Le jeu était vraiment tourné autour de lui, quoi.
Quand tu démarres, en fait, le jeu, t'as toute une intro avec... tu vois des buts de Ronaldo, l'équipe du Brésil, et tous les joueurs, en fait, sont très, très bien... Enfin, très bien faits. Du moins, il y a eu une tentative de modélisation du visage des joueurs, alors que les autres équipes, t'as le joueur vedette, on va dire, qui est modélisé, puis les autres, c'est des têtes un peu lambda.
Par exemple, tu prenais la France, Barthez, c'était facile de le reconnaître, c'était visage totalement lambda qui ressemblait pas à Barthez, par contre, il était chauve.
Voilà, chauve.
Et t'avais le même visage pour Franck Leboeuf qui était chauve aussi. On voyait qu'il mettait pas d'effort là-dedans.
Et justement, pour nos auditeurs les plus jeunes, on précise que c'est pas Cristiano Ronaldo. Hein.
Non, attention, c'est Ronaldo. Luis Nazario de Lima, le brésilien.
Le vrai.
L'original, le
vrai.
Le G.
Il phénoménal. Un jeu qui est assez drôle parce que quand tu y rejoues, au niveau de la jouabilité, au niveau de la jouabilité, c'est un bon point. Il est très très maniable, mais en fait, presque trop. T'as l'impression que tu joues sur de la moquette quand tu joues avec ce jeu. Il y a rien de rugueux, tout est doux. Hein, c'est du football brésilien. Hein, c'est chaloupé. C'est
magnifique.
C'est un beau toucher de balle, mais du coup, tu as l'impression de jouer sur de la moquette. Donc Ronaldo vs football. Et après, il y a eu la grosse claque. Donc ça doit être 2000 ou 2001, 2002
pour la Coupe du Monde.
Pro Evolution Soccer. Ouais, ça c'est le jeu qui fait passer en fait les jeux de sport collectif, on va dire, de l'arcade
niveau,
vers la simulation. Ouais. C'est-à-dire que là, bah, ça ressemble plus à du foot, c'est-à-dire que t'es obligé de jouer, de construire du foot. Vraiment, si tu veux gagner, graphiquement, c'était superbe, les modes de jeu étaient cool. T'avais l'équipe du Nigeria où t'avais Tijani Babangida qui était à 10 sur 10, je pense, en vitesse, en accélération.
C'était le meilleur joueur. Hein.
Avec Finidi, alors quand t'avais l'équipe du Nigeria, t'es dans les débordements sur les ailes, c'était un vrai carnage. Donc, Pro Evolution Soccer. Et puis après, on a parlé des jeux, tiens, un peu bizarres en foot. Je l'ai pas, je voudrais juste citer. Il y avait un jeu qui était assez dingue à l'époque. C'était Libero Grande. C'était un jeu où tu ne jouais qu'un seul joueur. Tu jouais, et en fait, c'était en vue à la première personne. Donc, en fait, je pense que ça pouvait vite donner le mal de mer. Mais, donc, tu voyais, en fait, t'avais le champ de vision, de ton joueur que tu déplaçais sur le terrain. Donc c'était un concept de jeu qui était assez assez marrant pour l'époque. Graphiquement, il était pas trop vilain. Par contre, ce que je me souviens de Libero Grande, c'est que les stades de foot, c'était des trucs... Les stades, ils mesuraient 300 mètres de haut.
C'était stades d'Olivetam.
Les stades étaient gigantesques. Ouais, quand tu traversais le terrain en deux parties. Et puis après, sur les jeux de... Les sports auto...
Les jeux de course, alors là, il y en a eu pléthore sur
PlayStation.
T'en as
eu plus que moi, je pense, Philippe. Là, j'ai ramené Formula One 98 et Verali.
Il y a eu Verali 2. Il y a évidemment toute la série des Formula One du 95 jusqu'à 2000 et quelques. Après, eSport est arrivé pour défoncer tout ça. Et c'était pas une bonne nouvelle. Et ils reviennent en plus. Et après, il y avait eu les Toka Race Driver, les Toka Touring Car, il y en avait une pléthore de jeux. Et le V-Rally, c'était le rallye de l'époque. Hein,
le mieux à l'époque. Hein. Sur la jaquette, c'est marqué V-Rally, un monstre sort ses griffes. Hein,
un monstre sort ses griffes. C'était Infogramme qui faisait ça d'ailleurs. Donc on les salue s'il y en a qui connaissent Infogramme. Et. Il était autant au niveau des voitures, c'était super intéressant, autant au niveau de la jouabilité, c'était Infogrames, quoi.
Graphiquement, c'était comme Infogrames, il est très très joli.
C'est très très joli, mais par contre, la jouabilité, c'était... Oh
ouais, c'était dur. Bon, déjà, il y a un premier truc qui choque un peu, comme quand tu regardes V-Rally, c'est que t'as toujours 4 voitures au départ de la spéciale. Tu te dis, mais attends, en rallye, ils sont pas tout seuls sur la piste, qu'à 4 voitures, c'est un peu dangereux.
Pile à ce moment-là, il y a eu les premiers Colin McRae Rally qui deviendront les Dirt et tout ça.
Ouais.
Et là, ça a été une révolution parce que oui, il y avait une seule voiture sur la piste et oui, c'était du rallye. Et c'est vrai qu'à côté de ça, V-Rally, qui était très bien, c'était du rallycross, quoi. C'était autre chose, hein. Alors que les Colin McRae Rally, même encore maintenant, ça a pas vraiment vieilli graphiquement. C'est parmi les plus beaux jeux encore d'actualité.
Et après, je les ai pas emmenés parce que ça aurait pas un grand intérêt visuel. Déjà, c'est un peu difficile, mais dans les jeux de foot, il y a eu. Moi, les jeux après sur lesquels je me suis bien. J'ai bossé beaucoup de temps et beaucoup de nuits. C'est toute la saga des Championship Manager, l'entraîneur en France. Qui a donné maintenant ce qu'on connaît sous le nom de Foot Manager et qui est devenu quasiment un logiciel pro, ouais. Un truc assez fou. Mais pareil, les premiers Championship Manager.
Il y avait eu Roger Lemaire, manager, il y avait Giroud, comme tu avais dit. C'était un peu l'entraîneur de l'année, il avait le droit à son jeu avec juste son nom. Mais le jeu était exactement le même.
Mais Championship Manager, ça a été pareil, une grosse claque quand c'est sorti, ouais. Parce que t'avais beaucoup de championnats qui étaient jouables, t'avais une base de données qui était assez monstrueuse, et puis tactiquement, c'était hyper intéressant. Tu pouvais suivre la progression de ton club. Et puis, on a tous connu Adrian Mielcea et Christian Kivu, si je parle de l'entraîneur 3-98, puis les Tsigalko.
Kakalov, tout ça.
Voilà, Judy Sagawa, Wael Riyad, Lacha Chelidze, Anatoli Todorov, etc.
Il fallait toujours chercher dans les pays les moins cotés. Et là, il n'y avait que des grandes stars.
Et puis, même dans les. Ça a continué, parce que même dans les Foot Manager, il y a eu des joueurs comme ça. Je pense à Emiliano Vecchio, je m'en souviens d'être dans le Foot Manager 2011, Fernando Forestieri. Enfin, des joueurs comme ça, ouais, c'était toujours le régal d'aller chercher sa pépite.
C'était sur le moteur graphique des FIFA, mais pas après 2000. Ils avaient fait un jeu spécial pour la Ligue française. Il y avait aussi pour la Première Ligue, mais en France, on n'avait eu que la LNF, à l'époque, ça s'appelait. C'était LNF All-Stars. Et il y avait tous les maillots des clubs de D1 de l'époque. Donc, c'était super chouette avec les sponsors, machin. C'était une révolution. Par contre, la jouabilité était plus que discutable et honnêtement c'était juste les stades on pouvait prendre, il y avait par exemple un stade qui en temps normal fait 15 000 personnes, il y avait 150 000 personnes dans le stade, c'était des stades qui étaient grandioses et tout, c'était du gros n'importe quoi, mais bon, il avait au moins le mérite d'exister, ça s'appelait LNF All Stars.
Et ce qui est marrant, c'est que Pro Evolution Soccer, on en a reparlé dernièrement quand on a parlé de la Super League Européenne, parce que c'est un peu aussi ce jeu là pour les auditeurs qui n'ont pas connu, qui connaissent maintenant que FIFA où il y a toutes les licences
ou les PES ou pareil toutes les licences,
ouais. Pro Evolution Soccer puis après enfin ISS puis PES, il n'y avait pas toutes les licences, du coup il n'y avait pas tous les clubs qui étaient jouables, et du coup les compétitions, enfin il fallait bricoler des compétitions avec en gros les meilleures équipes de tel ou tel championnat, et ce qui ressemble en fait, ce qu'on appelait la Ligue des Masters.
La Ligue des Masters ou la Master League, ouais.
Voilà, où tu pouvais faire progresser tes joueurs et il y avait un marché des transferts. Et du coup, la Ligue des Masters, on en a reparlé quand il y a eu ce fameux projet de Super League, parce que en fait, ça reprenait un peu le.
Ça reprenait totalement l'idée d'une ligue fermée. Ouais. Bon, là, il y avait la D2, parce que il fallait un peu de challenge. On commençait toujours en D2 avec une équipe de mecs que tu trouves dans la rue qui jouaient soi-disant au foot. Parce
oui,
que
Minanda, Castolo, Ximénez, Valmy, on s'en souvient.
Et c'est vrai qu'on affrontait, tu montais en D1, c'était la Super League. Quoi. Il y avait le Real Madrid, Barcelone, la Juve, avec les grandes stars. Et c'était. Et il y avait un truc qui était très drôle, je crois que c'était dans le PES 1 ou dans le 2. Il y avait le premier transfert du Real Madrid dans toutes les saisons, c'était toujours Florian Maurice qui allait. C'était soit Florian Maurice, soit un autre français qui. À l'époque, il y avait eu la rumeur qu'il aille, et il le faisait à chaque fois dans ce jeu, et c'était assez drôle de te retrouver à chaque fois.
Bon, ce qui était cool aussi sur, je pense, les jaquettes de FIFA, les jaquettes de Pro Evolution Soccer, c'est qu'on était quand même dans une époque où il y avait moins. Alors après, les marques y sont pour beaucoup, mais parce que maintenant, sorti de Ronaldo et Messi, c'est vrai que. C'est très binaire, quoi. À l'époque, t'avais beaucoup plus de joueurs qui faisaient la couve, la jaquette des jeux. Donc, tu vois, par exemple, la FIFA 2000, moi, j'ai une version, je l'ai rachetée en occasion, c'est une version qui doit venir d'Angleterre, parce que c'est Sol Campbell,
ouais.
Qui est en couverture, mais dans chaque pays, t'avais un joueur différent.
Dans les PES sur PS2, il y avait eu Drogba et Thierry Henry, par exemple, c'était les deux grandes stars.
FIFA en Amérique du Sud, t'as Valderrama qui avait fait la couve. Les Pro Evolution Soccer, je sais pas si tu te souviens, en 98, c'était Andreas Köpke, le gardien de l'OM, et Ravanelli.
Ouais. Ils avaient même été jusqu'à mettre un arbitre.
Ouais,
en couverture dans le. Je crois que c'était le 5, le 3,
ou
le
4,
4 ou le 5.
Colina.
C'était Colina. Et on verrait pas aujourd'hui un arbitre être en couverture d'un jeu vidéo de foot.
Turpin en couverture, je suis pas sûr que
ouais,
ça fait vendre le jeu. Ouais.
Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup.
Merci.
Pour cette discussion, débat autour des jeux de foot.
Et
de
grand,
sport.
Grand moment de nostalgie aussi.
Et justement, tu as parlé de ces différents jeux que tu as devant toi, de PlayStation 1, certains de PlayStation 2, je crois, qui seront à retrouver en photo, évidemment, sur l'article, parce que toutes les semaines, eh bien, cette émission Prestart est podcastée et disponible en rediffusion sur le site de Radio Campus Tour, radiocampustour.com. Tout de suite, on va faire une pause musicale et je me tourne vers toi, Philippe. Qu'est-ce qu'on écoute, justement, dans cette pause musicale?
Alors, on va écouter ce qui sert d'introduction au plus grand jeu de tous les temps, selon mes propres standards, c'est-à-dire que ça vaut... absolument rien, mais pour moi c'est important. Non, c'est le jeu Metal Gear Solid 3 et la chanson c'est Snake Eater, qui a une petite tendance à être, ça pourrait être une musique de James Bond en fait, et ça met vraiment dans l'ambiance.
And silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. I give my a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time,
dans Press Start, votre émission de jeux vidéo sur Radio Campus Tour, et on est toujours avec Philippe et Seb pour la suite de cette émission. On vient donc d'écouter une petite musique et tout de suite on passe au DLC.
C'est l'heure du DLC.
Et pour ce DLC qui est donc notre partie, comment pourrait-on l'appeler ? Un peu fourre-tout, faut le dire. Cette semaine, je vais vous faire une présentation de Twitch. Alors, Twitch, je pense que vous avez déjà entendu au moins deux noms. Qu'est-ce que c'est Twitch ? Alors, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et dont je vais essayer de répondre. Twitch est une plateforme de streaming sur Internet qui a été lancée en juin 2011 et qui est tournée à la base vers les jeux vidéo. En fait, c'est une branche de quelque chose qui s'appelait Justin TV, qui en fait était destiné à plein de choses, toujours en live sur Internet. Et Twitch, en fait, était la branche jeux vidéo de ce site Internet. Mais le fait est qu'en fait, Twitch a pris une telle ampleur que 3 ans après sa création, en 2014, eh bien Twitch a complètement avalé Justin TV et c'est Twitch qui est devenu le site principal, au point même où, en août 2014, Amazon a réussi à racheter l'entreprise pour la somme de 970 millions dollars. À l'époque, c'était incroyable. Une entreprise qui a 3 ans et qui fait du streaming, c'était un peu de niche quand même, toujours à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins, mais à l'époque, c'était un truc de niche, tout simplement. Et Amazon ont flairé le potentiel et je pense que ils ont fait une belle affaire quand même.
Je pense qu'ils ne doivent pas s'en plaindre. Ouais.
On n'est pas loin du milliard de dollars, mais pour le coup, aujourd'hui, je pense que la valorisation est bien au-dessus. Justement pour ce site. Alors, comment on pourrait le présenter pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est Twitch ? Imaginez YouTube, que vous connaissez, il y a plein de chaînes, il y a plein de diffuseurs qui vous proposent du contenu, sauf que là, la particularité, c'est que, eh bien, ce ne sont pas des vidéos qu'on peut consulter quand on veut, mais c'est un live, donc un contenu en direct, qu'on ne peut consulter qu'à un instant T, plus ou moins, il y a des rediffusions,
plus ou moins, parce
évidemment.
Certaines chaînes font des rediffs, ouais.
Mais l'idée, c'est de pouvoir le consommer à un instant présent et arriver en cours de programme, accroché à ce qui se passe, et regarder justement ce streaming.
En quelque sorte, c'est un petit peu comme la télévision, quoi. C'est vraiment, tu allumes, tu y vas, tu regardes ton truc, voilà.
Et justement, ce parallèle à la télévision, j'allais le faire, parce que ça peut être un peu surprenant que les gens soient aussi intéressés par du streaming, sachant qu'aujourd'hui, à la télé, la tendance, c'est de partir de ces programmes en direct et de se déplacer vers de la VOD, vers de la rediffusion, vers du replay, comme ils appellent ça.
Après, il y a certaines chaînes qui, au niveau rediffusion, ils se font plaisir. Hein. Mais bon, ça, oui, c'est un autre
aussi
truc.
Mais le replay, donc, marche de plus en plus. Et pourquoi est-ce que, eh bien, sur Internet, on aime regarder des choses en direct, alors qu'à la télé, on préfère pouvoir consulter sa série, son film, un peu quand on veut? Ouais. Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a un vrai intérêt au direct. Quand vous regardez une émission en direct à la télé, à moins que ce soit un événement sportif ou un concert, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le voir en direct. Alors que sur Internet, peu importe le contenu qui est diffusé, l'intérêt justement sur Twitch, eh bien, c'est le chat. Qu'est-ce que c'est le chat ? Eh bien, c'est tout simplement un endroit. Imaginez que vous regardez votre programme préféré et vous pouvez interagir en temps réel avec les autres personnes qui regardent ce programme, donner votre avis, réagir, et que le commentateur regarde aussi ses commentaires. Eh bien, cette utopie est réelle et elle existe sur Internet, sur Twitch. C'est en fait complètement le principe de Twitch, et le chat, ce n'est pas un espace un petit peu mis de côté par les streamers, par les gens qui diffusent du contenu sur Internet, mais c'est bel et bien, eh bien, un contenu central pour la réalisation des émissions, parce que parfois il y a même des émissions en plateau, des choses avec une grosse production, mais que ce soit pour des petits streams ou même pour des réalisations en plateau, le chat reste au centre, eh bien, des émissions et des réalisations, et c'est pour ça que le live est aussi intéressant. Donc voilà, c'est pas regarder un live sur Twitch n'est pas passivement regarder ce que quelqu'un d'autre fait, et en fait c'est un divertissement à part entière où le spectateur est acteur de ce qu'il se passe, il interagit avec le diffuseur par l'intermédiaire donc du chat. Et on peut se demander, en fait, qu'est-ce qui est diffusé sur Twitch? Alors, effectivement, des jeux vidéo, je l'ai dit au début, c'est l'essence même de Twitch, c'est ce qu'il y avait dès le début, c'est l'historique de la plateforme, mais pas que, en fait, on se rend compte que le jeu vidéo, c'est plus l'élément central. Justement, en France, dernièrement, le jeu vidéo, la catégorie qui est la plus streamée sur Twitch, ce n'est pas un jeu vidéo, non, c'est ce qu'on appelle le just chatting, donc juste parler en français, où en fait, les gens aiment diffuser sur Internet juste pour soit faire de la discussion avec son public, soit proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec du jeu vidéo, ça peut être de la cuisine, un événement sportif, un événement caritatif, de la musique, de la peinture, de la sculpture, des balades de découverte dans des villes, enfin, n'importe quel endroit où on peut avoir un internet, on peut y faire un live, et n'importe quelle passion qu'on a, on peut la partager sur internet, et c'est ce qui est beau aussi avec cette plateforme, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, et justement pour diffuser sur Twitch. Mais qui est-ce qui regarde Twitch ? Tu veux rajouter quelque chose ?
Je voulais simplement te dire, le côté interaction, c'est vrai que, par exemple, on l'a vu là avec le premier confinement, il y a eu pas mal de sportifs, par exemple de haut niveau, qui se sont mis sur cette plateforme-là pour justement diffuser du jeu vidéo ou discuter. Et dans la vie de tous les jours, personne ne pourrait s'approcher d'un Griezmann ou d'un Charles Leclerc ou d'un Romain Grosjean, et pourtant là il y avait ce côté interaction, il y a même eu des moments assez comiques, par exemple Charles Leclerc, sa copine qui en direct envoie un message sur le chat pour lui dire qu'elle était devant la porte, elle avait oublié ses clés, et donc ça a donné un truc qui est devenu un mème depuis, mais voilà, c'est voir peut-être des célébrités sous un autre jour et peut-être sous un visage un peu plus humain, quoi.
Parce que... Ouais, tout à fait. Et même pour eux, ça leur permet d'avoir un retour direct du public. Et, parce que c'est compliqué de parler avec 100 000, 50 000 personnes en même temps. C'est pas possible dans la vraie vie, alors que surtout.
Alors que sur les réseaux sociaux, c'est quasiment impossible de pouvoir interagir. Alors que là, il y a ce côté interaction en direct qui peut être drôle, quoi.
Carrément. Et du coup, qui est-ce qui regarde Twitch? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un truc de niche où personne ne regarde, ou est-ce que c'est quelque chose qui est consommé assez globalement? Bah, en fait, on est un peu dans un entre-deux. On culmine donc à environ 5 milliards d'heures de visionnage sur l'année 2020, ce qui est un chiffre énorme, ouais. Qui est en hausse de 83,1% par rapport à l'année précédente. Donc ça montre l'évolution de cette plateforme. Aussi, sur un temps de visionnage moyen, la part des personnes qui regardent pendant 2 heures Twitch chaque jour a augmenté de 62,7% l'année dernière. Alors forcément, on avait du temps pendant le confinement, donc regarder un live pendant plus de 2 heures de suite, on pouvait le faire. La part de marché du live aussi, parce que Twitch propose du live, mais ce n'est pas la seule plateforme qui en propose. On peut penser par exemple à YouTube Gaming qui en propose, ou encore à Facebook Gaming. Donc voilà, il y a différentes plateformes qui existent. Twitch a 67,6% quand même de part de marché sur justement le secteur du live. En termes de visiteurs uniques dans le monde, c'est 17,5 millions de visiteurs uniques chaque jour dans le monde qui se connectent à Twitch. Et en France, en visiteurs uniques par jour, il y a 1 million de personnes qui se connectent donc tous les jours sur Twitch.
Ça tourne bien, ce
qui est un beau chiffre. Ça veut dire donc que c'est 1 million de personnes uniques chaque jour, c'est-à-dire que dans la moyenne de l'année, on est évidemment bien au-delà du million de personnes. Donc ça montre quand même que c'est un média qui est largement consulté. Il y a aussi évidemment des records du monde d'audience. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez entendu parler de ce record du monde d'audience qui est détenu par un streamer espagnol qui s'appelle The Gref lors d'une présentation d'un nouveau personnage, un nouveau skin dans le jeu Fortnite à son effigie? Eh bien, il a battu le record du monde de nombre de viewers sur son live, et à votre avis, combien c'est? Est-ce que vous avez une idée de combien de personnes pouvaient être présentes pour regarder ça? C'est le record du monde sur Twitch. Après, attention à mettre en perspective aussi, c'est pas non plus un match de foot, il n'y avait pas 2 milliards de personnes, je vous le dis tout de suite, mais ça reste un chiffre assez ahurissant. Pour Twitch, c'est ahurissant, oui.
S'il y a 1 million en moyenne par jour en France, donc on doit être aux alentours de 8-9 millions, quoi, non?
Ouais, toi t'as une idée, Seb? Tu dirais quelque chose ou pas?
J'aurais dit le million, mais...
Un million? Ouais, eh ben c'est Seb qui est le plus proche. S'il y avait 2,5 millions de personnes sur un live Twitch, ce qui est absolument incroyable.
C'est énorme, ouais.
Et en France, il y a aussi un record. Alors, juste pour mettre en perspective, ça c'est un record qui date de 2020, ce chiffre de 2,5 millions. Ouais. À titre de comparaison, en 2018, c'est Ninja qui avait battu à l'époque le record sur un live Twitch avec je sais plus quelle personnalité du rap, mais il était avec des grands noms du rap, etc. Où il avait fait 628 000 spectateurs. À l'époque, c'était un chiffre monumental.
C'est énorme. Ouais.
Et 2 ans après, on est à 2,5 millions. Donc bon, ça montre quand même l'évolution
y a
de cette plateforme.
Ouais.
Et en France, est-ce que vous savez qui est-ce qui détient ce record? Ça n'a rien à voir avec du jeu vidéo. C'est assez fou d'ailleurs comme record. Est-ce que vous avez une idée? Une idée de chiffre ou une idée de personne d'ailleurs?
Est-ce que c'est une personnalité politique?
Non, ce n'est pas une personnalité politique, c'est une personnalité d'Internet, mais pas forcément, pas forcément de Twitch.
C'est Norman ou Cyprien, un YouTuber connu?
Eh bien alors, YouTuber connu, oui, c'est Cyprien, McFly et Carlito et Squeezie sur la chaîne de Squeezie, qui ont atteint 390 000 viewers, ce qui est le record français pour, évidemment, pas du gaming, mais en fait pour une parodie de la pièce de théâtre Roméo et Juliette. C'était un gage d'une vidéo de McFly et Carlito il y a quelques années. Ils avaient fait ça sur Twitch. Et voilà, ça a battu le record d'audience.
J'avais déjà vu ça sur Twitch, une streameuse anglaise qui avait refait je crois que c'était un film, c'était Harry Potter avec des amis à elle. Et c'était juste hilarant parce que comme ils savent pas jouer, c'était complètement pété. En plus, ils ont consommé de l'alcool, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et pour les messieurs et madame du CSA, à consommer avec modération, avec grande
bien
modération.
Sûr.
Et voilà, donc c'était juste hilarant, quoi, de se dire c'était gros n'importe quoi.
Et puis là, c'était fait exprès que ça soit mal joué, ils avaient les textes sur scène
Ils avaient les textes sur les papiers, et puis ils étaient là, on avait l'impression que c'était ta petite sœur qui fait du théâtre à 4 ans, quoi. C'était merveilleux, quoi.
Donc ça montre que Twitch mobilise beaucoup de monde, et Twitch mobilise du monde aussi pour la bonne cause, parce qu'il y a de nombreux événements caritatifs qui se tiennent sur Twitch, mais si on doit prendre le plus suivi en France et franchement dans le monde même, c'est le The Event. The Event, c'est un événement qui est organisé par Zerator, qui est, on peut le dire, je pense, historiquement, le plus grand, ou en tout cas l'un des plus grands streamers français par son audience, par sa reconnaissance, par les événements qu'il organise depuis des années et des années. C'est donc une levée de fonds qui a lieu chaque année pour une association caritative. ça change tous les ans. Et l'année dernière, le The Event en 2020, malgré le Covid, une édition a pu se tenir. Ça s'est très bien passé. C'était pour Amnesty International.
Et l'année d'avant, je crois que c'était pour l'Institut pour le cancer.
Institut Pasteur. Et l'année encore avant, ça devait être pour la lutte contre... c'était pas contre le cancer deux ans avant.
Il y a deux ans.
Toute première édition, c'était pour la Croix-Rouge.
Et c'est impressionnant de voir. Déjà, il arrive à réunir les grands youtubeurs et tout ça. Et c'est juste magique, quoi, de voir cette espèce d'élan. Entre le public, entre les streamers, et c'est merveilleux.
Donc j'ai les chiffres sous les yeux, je vais vous les donner pour les personnes qui ne suivent pas Twitch et qui donc ne connaissent pas forcément cet événement, malgré le fait qu'il a été quand même communiqué dans beaucoup de médias. C'est un événement avec des chiffres assez incroyables. Alors il y a 54 streamers qui se réunissent pour la bonne cause. Ça c'est les chiffres de 2020. Pendant 55 heures de live, ça commence le vendredi soir, ça termine le dimanche soir. En fait, ils sont, pour vous donner le contexte, ces 54 personnes sont tous dans la même pièce avec leur ordinateur pour liver, pour streamer sur leur chaîne personnelle. Ouais. Et donc pendant 55 heures, ils live autant qu'ils veulent. Ils sont obligés d'aller dormir quand même parce qu'il y en a qui sinon feraient les 55 heures sans dormir. Mais vraiment, il y en a qui ont voulu le faire à un moment donné. Et en fait, ils diffusent leur contenu et le but c'est d'appeler, de faire plein de choses, plein de jeux, plein d'événements avec leurs spectateurs et de les inciter évidemment à donner pour la bonne cause. C'est donc pour juste l'événement, il y a eu près de 2,5 millions de visiteurs uniques et cumulés sur tout le week-end et sur toutes les chaînes, donc 2,5 millions de personnes qui ont suivi cet événement. Un pic d'audience sur toutes les chaînes cumulées de 660 000 personnes qui suivaient ça, donc un événement, des chiffres qui dépassent pas mal de chaînes de la TNT d'ailleurs, hein, c'est chiffres franchement ahurissants. Un nombre de spectateurs moyens, sachant que tout ça inclut la nuit évidemment, ou sur Twitch il y a encore du monde, mais c'est plutôt le matin où sur Twitch il n'y a pas grand monde, avec un nombre moyen de 244 000 personnes pour 13 millions d'heures vues cumulées. Voilà, c'est fou de se dire ça. Alors il y a évidemment eu, au-delà des dons aussi, des choses qui ont été vendues, et les profits de ces choses qui ont été vendues ont permis de faire grimper la cagnotte, notamment 120 000 t-shirts vendus, plus de 5 600 albums vendus, et puis aussi pas mal de dons pour une somme récoltée finale, je joue la montre depuis tout à l'heure, mais c'est le moment de vous l'annoncer, de 5 724 377 euros levés en 55 heures, ce qui fait quand même une moyenne de 104 000 euros par heure, quand même assez ahurissant. Donc,
prends ça le Téléthon. Donc, ça va, Sophie d'avant ?
Donc c'est quand non, même c'est pas ça, mal, hein, 5,7 millions.
C'est là où on se rend compte, quoi. C'est que oui, le Téléthon, ils font le truc à la télé, mais peut-être que voilà, il y a quelque chose.
Ouais, ça change la façon de voir. Oui.
Après, le Téléthon font plus de 5,7 millions, mais en même temps, je pense que si on fait une comparaison entre le nombre de spectateurs du Téléthon et le nombre de spectateurs et qu'on fait une moyenne, à mon avis, les gamers donnent quand même vachement plus. Ouais. Et donc, 5,7 millions, c'est le record absolu pour un événement caritatif sur Twitch dans le monde. Ça n'a jamais été fait. Chaque année, le The Event bat son nouveau record. Alors, Zerator est très au point avec ça, le but c'est pas tous les ans de faire toujours plus, d'inviter de plus en plus de personnes, etc. Ça reste un événement à taille humaine, mais les gens se mobilisent de plus en plus année.
C'est parce que ils en ont entendu parler, donc ça va intéresser les gens, et puis tu retrouves tes streamers préférés ou tes youtubeurs préférés, et automatiquement ça va générer, ça génère derrière, quoi.
Voilà, de l'envie de faire un don, et puis même si ça augmente plus, 5 millions tous les ans pour la bonne cause, c'est franchement beau. Très très beau. Et sur Twitch il y a donc ces événements là, il y a des streams un peu plus modestes faits depuis, par exemple, vous, si demain vous voulez faire un stream depuis votre téléphone ou même depuis votre ordinateur chez vous dans votre chambre, vous pouvez le faire. Mais il y a aussi des événements qui existent, je pense notamment à Domingo, qui est un streamer français qui organise beaucoup d'événements autour du sport. Il a déjà couru des semi-marathons, il a déjà fait des courses de vélo en live sur internet, ou encore un talk show en plateau chaque semaine qui s'appelle Popcorn. Ça ressemble franchement à une émission, c'est une émission avec une régie, avec pas mal de caméras, enfin c'est comme une émission très, très télé, pro, ouais, entre guillemets, c'est très pro, ouais. Sauf qu'il y a cette touche internet, cette proximité, des sujets quand même liés à internet, et c'est une émission qui plaît énormément, qui fait des dizaines de quasiment 100 000 personnes chaque donc sur toute l'émission et puis chaque semaine. Et je pense qu'en spectateur unique on est à plusieurs on doit être au-dessus des 100 000, peut-être 150 000 personnes au moins chaque semaine.
C'est-à-dire qu'ils font quasiment faut revérifier les chiffres, mais je suis sûr qu'ils font quasiment autant que Estelle Denis ou l'équipe du soir. Ce qui est quand même pas mal pour un truc sur internet.
Ils font des chiffres assez ahurissants, et donc ce que je voulais terminer aussi en parlant du modèle un peu économique, sans rentrer dans les détails, mais globalement Twitch c'est un milieu qui se professionnalise beaucoup. Il y a énormément de personnes qui gravitent là-dedans, que ce soit les streamers, mais même tous les gens qui les entourent pour réaliser ces streams, parce qu'en fait c'est pas que des gens qui font des lives depuis leur chambre, bien au contraire. Et c'est une économie sur Twitch. Alors évidemment il y a des placements de produits comme sur d'autres réseaux sociaux, il y a des marques qui financent des événements, mais c'est aussi une économie assez spéciale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le streamer, pour vivre, eh bien, il vit globalement des dons. Et en fait, les viewers sont assez sensibilisés à ça. Ils savent que s'ils ne font pas de dons, le streamer ne gagne pas d'argent, et donc il ne peut pas vivre de son métier. Et donc, c'est une économie qui, en fait, existe un peu nulle part ailleurs, de se dire que c'est les viewers, par leur propre argent et par leur propre envie, qui décident de donner de l'argent pour leur contenu qu'ils regardent gratuitement sur Internet. Comme quoi, il y a une vraie solidarité, et c'est pas...
Et il y a aussi ce côté, c'est que il y a aussi ce côté partage dans certaines communautés où ça arrive que des fois une personne va offrir à d'autres un mois d'abonnement. Et voilà, c'est il y a ce côté un peu cadeau aussi. C'est voilà, il y a un côté bon enfant. Il y a aussi un côté un peu toxique chez certains, mais voilà, principalement ils essaient quand même que ça reste bon enfant, et c'est ça qui est bien, quoi.
Parce que évidemment au-delà des, enfin c'est des dons qui sont faits, mais parfois il y a des petites contreparties. C'est le cas de l'abonnement, du sub sur Twitch, qui vous donne des petites voilà, des petites choses, des petites émoticônes, des choses un peu spéciales dans le chat. Ouais. Mais globalement l'idée, au-delà de ça, quand on s'abonne à une chaîne pour 5 euros par mois, c'est pas forcément d'avoir un petit bonhomme dans le chat, mais c'est surtout de se dire je finance un projet, je finance quelqu'un dont j'aime le contenu et dont je suis le contenu régulièrement. Et je trouve c'est un peu
comme un compte Patreon ou autre comme ça. Mais le côté, avec ce côté, voilà, c'est du live. C'est tout de suite, c'est de l'immédiat, quoi.
C'est ça, et ouais. Un financement que je trouve assez intéressant, assez sympa, personnellement. Ouais. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette présentation de Twitch. Maintenant, je me tourne vers vous, messieurs. Est-ce que on peut parler de ça rapidement ? Est-ce que vous êtes des gens qui consommaient Twitch ? Est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, que vous connaissiez pas forcément par rapport à ce domaine ?
Je t'en prie. Alors, moi, je suis très très loin de tout ça. Je connais pas. Enfin, je connais le nom, mais je ne suis jamais allé voir un seul contenu de Twitch. Moi, je devrais peut-être, au moins pour ma curiosité perso, aller voir. Donc ouais, non, pour l'instant, je suis très très loin de tout ça. Après, c'est vrai que ça a l'air intéressant, le côté interaction. Pendant le confinement, moi, j'ai suivi ici des artistes. Alors, c'était sur Facebook. Il y avait des Facebook Live d'artistes qui faisaient depuis chez eux des concerts. Après, bon, je suis pas spécialiste, et j'ai cru comprendre que les Facebook Live, notamment des artistes, ça posait des problèmes des fois pour les droits. Question de droits d'auteur, enfin, il y a eu pas mal de soucis. Les lives, ça tenait pas. Au bout d'un certain moment, ça craquait. Et puis, niveau interaction, voilà, c'était aussi, ça avait visiblement des limites. Donc, effectivement, peut-être que Twitch est la plateforme qui permet de concilier à la fois le live, l'interaction et le contenu qui sort un peu de l'ordinaire du tout à chacun chez lui, qui veut proposer quelque chose, y compris c'est quelque chose qui s'adresse à une catégorie bien particulière de personnes, quoi.
Ça, les droits d'auteur musicaux sur Twitch, c'est une vraie question, parce qu'en fait, avant, on pouvait faire un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est interdit d'utiliser des musiques qui ne sont pas libres de droits, sauf que personne ne contrôle. Simplement, de temps en temps, il y a le robot de Twitch qui, d'un coup, va bannir toutes les chaînes qui n'ont pas respecté la règle, tous les 2, 3, 4, 6 mois, on ne sait pas pourquoi, de façon hyper arbitraire. Mmh. Certains le font, ils ne sont pas bannis, certains le font une fois pendant 5 secondes et sont bannis. Donc c'est hyper compliqué, et surtout qu'il n'y a pas quelque chose qui existe comme il existe en France, pour les radios notamment, bonjour à nous, où on peut payer le CSA et diffuser ce qu'on veut. Eh bien, en fait, non, sur Twitch, ça n'existe pas. Un streamer ne peut pas dire j'ai l'accord de ce musicien, ou ce musicien, je le paye pour pouvoir diffuser sa musique. Et ça ne marche pas. ça marche pas si le titre est, n'est pas libre de droit à côté. Donc ça, c'est vrai que c'est une limite quand même qui existe et qui est embêtante. Et je pense qu'un système finira par être trouvé, mais c'est assez compliqué, surtout quand c'est un truc international, quoi. Se mettre d'accord sur les législations un peu partout dans le monde, c'est toujours hyper compliqué.
Alors moi, oui, je regarde régulièrement sur Twitch, surtout les streams anglais, anglophones. Et non, c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est... On découvre des choses où on est avec des personnes qui vraiment... voilà, il y a ce côté un peu passion commune et ça permet une interaction. C'est ça que j'ai trouvé vachement chouette. Et il y a peut-être un petit peu moins quand même ce côté mercantile, quoi. On sent que c'est pas sur les vidéos YouTube souvent c'est pensez à vous abonner à mon Twitter machin bidule truc. C'est vrai que bon, why not, mais non, j'aime bien ce côté ouais, comme tu dis, j'aime bien ce que cette personne fait. Bah voilà, je donne un petit coup de main et puis c'est voilà, ça permet de profiter derrière. C'est ça que j'aime bien, quoi.
Eh bien écoutez, merci messieurs d'avoir suivi cette présentation et j'espère que, chers auditeurs, vous en avez appris plus sur cette plateforme Twitch dont on prendra le temps évidemment d'en reparler dans le futur. Il y a plein de sujets hyper intéressants, ouais, qui tournent autour de ce milieu. On arrive à la fin de cette émission Prestart, voilà. Déjà, le temps passe si vite. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je tiens à vous rappeler évidemment que vous pourrez retrouver la rediffusion de cette émission sur le site internet de radiocampustour.com pour pouvoir l'écouter, la réécouter. Pour ce qui est de la suite de cette émission, eh bien ça sera la semaine prochaine, mercredi prochain, ouais. Une nouvelle émission de Prestart toujours en live, oui, en tout live, à fait, peut-être. De 19h à 20h. Dans quelques instants, la suite des programmes à l'écoute de Radio
Avec
Campus
un invité
Tour.
Dans l'émission, j'ai Sonic, qu'est-ce qui devient?
C'est 30 ans cette année, Sonic.
Et il sera avec nous la semaine prochaine.
Il sera avec nous la semaine prochaine.
Un petit hérisson vert.
Voilà. Non, avec un plombier italien. Mais...
Bon, on vous en parle.
Ça me dit quelque chose.
On vous en reparle la semaine prochaine. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là dans cette émission. Merci Seb. Merci.
J'ai croisé une tortue ailée tout à l'heure dans la rue. Je sais pas ce qui se passe dans le.
On va aller voir à la porte. Ouais. Je crois que quelqu'un a sonné. Merci à vous. Et puis rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut.